Radio Prague, les informations.
Le nom de Petr Nečas sous pacte budgétaire européen provoque des remous au sein de la coalition au pouvoir. La mairie de Prague va installer des foyers d'hébergement d'urgence pour les SDF. Et puis en tennis, en Coupe Davis, Berdych et Štěpánek affronteront l'Italie. Le refus du Premier ministre tchèque Petr Nečas d'adhérer au nouveau pacte budgétaire européen a suscité des remous à Prague, menaçant la cohésion de la coalition gouvernementale. La décision de M. Nečas, chef du parti de droite ODS, lui a valu aussitôt une vive désapprobation de Karel Schwarzenberg, ministre des Affaires étrangères et chef de Top 09, autre membre parti de la coalition. Petr Nečas s'est fait guider par des raisons de politique interne, ce qui est la pire chose, et sa décision lèse la République tchèque, a déclaré mardi le chef de la diplomatie. À la mi-janvier, M. Schwarzenberg avait déjà souligné qu'il ne pouvait pas être membre d'un gouvernement qui conduirait la République tchèque en dehors du courant principal de l'intégration européenne. Fin de citation. Plus d'informations sur ce thème dans quelques instants dans les faits et événements. La mairie de Prague a annoncé qu'elle allait installer des foyers d'hébergement d'urgence pour accueillir les SDF de la ville afin que ceux-ci puissent se protéger de la vague de froid qui traverse le pays cette semaine. Une femme, probablement aussi une SDF, a été retrouvée morte ce mardi matin dans une cabane de jardin, a annoncé le porte-parole de la police locale à Prague, Jan Daniek. Selon les statistiques des services de secours de Prague, il s'agit du 11e cas de décès depuis octobre dernier qui pourrait être lié au froid. Les météorologues mettent en garde contre des nuits extrêmement froide. À la fin de la semaine, les températures pourraient atteindre à ce moment jusqu'à moins 35 degrés et cette météo glaciale pourrait durer au moins jusqu'à la mi-février. Il existe plus de 3500 SDF dans la capitale tchèque et le peu de foyers disponibles est déjà pris d'assaut. Yaroslava Novotna est la nouvelle procureure générale de l'ELEX au Kosovo. Elle était auparavant représentante de la République tchèque pour la mission Eurojust au tribunal international de La Haye. Dans ce cadre, elle était en charge de la collaboration judiciaire entre la République tchèque et les autorités compétentes des autres pays membres de l'Union européenne. Yaroslava Novotna est procureure depuis environ 30 ans. À noter que la mission ELEX, lancée en 2008, est une mission civile menée par l'Union européenne dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense qui vise à promouvoir l'état de droit au Kosovo. Ce mardi, les conseillers municipaux de la ville de Prague ont voté la suppression des nombreux stands de la place Venceslas. Décision qui s'articule à un projet plus général d'amélioration de l'urbanisme de cette artère centrale de la capitale. Le plan prévoit d'installer 6 stands uniques qui ne vendraient que des journaux, des fleurs et éventuellement des pâtisseries. Le retour des hot dogs et autres denrées pour un repas sur le pouce est une question qui reste pour l'heure en suspens. Une première tentative avait été faite dans ce sens il y a quelques temps pour bannir ces stands alimentaires, mais c'était heurté à l'opposition des locaux ainsi que celle des touristes. Ce mardi, 50 ans se sont écoulés depuis la mort de Vlasta Burian, le roi de la comédie tchèque, né dans la ville de Liberec le 8 avril 1891. Il s'était imposé déjà avant la Première Guerre mondiale dans des cafés-théâtres, mais c'est le cinéma qui lui a apporté une célébrité qui ne s'est pas démentie par la suite. En tennis, le capitaine de l'équipe de Coupe Davis de la République tchèque, Jaroslav Navratil, pourra compter sur ses stars lors de la réception de l'Italie au premier tour de la célèbre compétition par équipe qui se déroulera du 10 au 12 février. Tomáš Berdych et Radek Štěpánek ont ainsi répondu à l'appel. Lukáš Rosol et František Čermák formeront l'équipe du double. On finit par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Hinek, le temps en République tchèque restera clair et les températures maximales seront fraîches et même froides. Elles s'échelonneront entre moins 9 et moins 5 degrés. C'est la fin du bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Paul Bauer.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Anna Kubišta pour ce bulletin d'information et bienvenue à l'écoute de l'actualité sur Radio Prague. Au sommaire d'aujourd'hui, pacte budgétaire européen, la Grande-Bretagne et la République tchèque se sont mises au banc de l'intégration européenne en refusant d'adopter dans la nuit de lundi à mardi à Bruxelles le pacte de stabilisation des finances publiques. Le maire de Prague, Bohuslav Svoboda, a été élu sans surprise à la présidence de la section pragoise de l'ODS. Et enfin, le siège du système de navigation Galileo s'installera très prochainement à Prague. Nous verrons les détails avec Alexis Rosenzweig en deuxième partie d'émission. Bonne écoute. À l'exception de la Grande-Bretagne et de la République tchèque, l'ensemble des pays de l'Union européenne a adopté, lundi 31 janvier au soir, un traité qui doit permettre de contrôler étroitement les finances publiques des pays de l'Union européenne. Le texte devrait être ratifié formellement par les États au début du mois de mars et entrer en vigueur dès que 12 des pays signataires l'auront ratifié. En refusant d'adopter le texte, la République tchèque s'est encore une fois distinguée comme un membre difficile de l'Europe communautaire qui risque bien de passer à côté du nouveau processus d'intégration européenne que la quasi-totalité des États a accepté. Pourquoi la République tchèque a-t-elle refusé l'accord? Quelles sont les raisons qui ont poussé la République à se joindre à la monarchie britannique, pays traditionnellement sceptique à l'égard de l'Union européenne? Telles sont les principales questions posées ce matin par les quotidiens de la presse nationale tchèque à la suite de l'annonce par le Premier ministre Petr Nečas du refus de la République tchèque d'adopter le traité devant instaurer une discipline accrue des finances publiques des États membres. Lors des négociations ayant conduit à l'adoption du texte, la République tchèque s'était jointe à la Pologne afin d'obtenir de la part des États membres un siège d'observateur lors des futurs sommets de la zone euro. Il s'agissait de l'une des conditions à la participation des deux pays à la poursuite du processus d'intégration politique que l'Allemagne et la France appellent de leur vœu. Malgré l'opposition de la France, la Pologne s'est jointe au groupe des signataires. Mais en refusant, la République tchèque s'est rangée du côté des Britanniques qui, depuis l'arrivée au pouvoir du conservateur David Cameron, se sont profondément distanciés du projet européen. Dans un entretien accordé à Lidové Novini, Petr Nečas a déclaré non sans fierté s'être opposé clairement au texte, considérant que le traité n'apportait rien de bon à la République tchèque et qu'il n'y avait aucune raison de l'adopter. Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion d'adoption du traité, Petr Nečas a notamment fait savoir que les modalités techniques de la procédure de ratification du texte par la République tchèque n'étaient pas réunies, faisant référence au refus formel du président Václav Klaus de signer l'accord budgétaire. On écoute Petr Nečas.
Pour être ratifié, le texte nécessite la signature du président de la République. Or, le président a publiquement annoncé qu'il refuserait de joindre sa signature au texte. De plus, l'accord n'apporte rien de nouveau ni d'utile à la République tchèque. Il n'apporte rien de plus que ce que la République tchèque s'est elle-même imposé en termes de constitutionnalité fiscale et de responsabilité budgétaire en vue de consolider ses finances publiques.
Le Premier ministre critique en outre l'une des dispositions clés du texte qui prévoit une limitation du déficit public à 60% du PIB, alors que de nombreux membres de la zone euro dépassent actuellement cette barre définie dans le pacte budgétaire. D'accord sur le fait que le texte ne répond pas pleinement aux attentes pourtant centrales de l'économie européenne, notamment en termes de soutien de la croissance et de la création d'emplois, le vice-président de la Chambre des députés et membre du parti d'opposition social-démocrate CSSD, Lubomír Zaorálek, regrette qu'en se retirant du pacte, la République tchèque perde sa capacité d'agir et à faire valoir ses intérêts au sein de l'Union européenne.
Je n'aime pas l'idée qu'en raison du fait que l'accord ne répond pas à toutes nos attentes, nous sortions du processus. Je crains que les conséquences soient désagréables pour le pays. Si nous souhaitons nous joindre plus tard à l'accord, ce ne sera pas aussi facile que maintenant. Le train démarre aujourd'hui et nous pouvons dire « oui, nous participons et nous allons regarder comment les choses se développeront ». Mais si nous ne nous joignons pas au groupe et que nous n'obtenons pas un siège d'observateur de la zone euro, nous n'aurons aucune information sur la manière dont les choses évolueront. Or, c'est une question essentielle à l'avenir pour la République tchèque.
Marginalisée, considérée comme eurosceptique, la République tchèque est, avec la Grande-Bretagne, l'un des deux seuls pays à avoir refusé un approfondissement de l'intégration politique européenne, sans pouvoir toutefois l'arrêter. C'est la raison pour laquelle Lubomír Zaorálek a exhorté les responsables politiques au pouvoir à participer plus activement aux décisions prises actuellement sur l'avenir de l'Europe. Même son de cloche de la part du ministre des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg à Bruxelles, qui a ouvertement critiqué la position du Premier ministre lors du sommet européen, déclarant à l'agence de presse tchèque ČTK que le retrait tchèque risquait de nuire sérieusement aux intérêts du pays. La section pragoise du Parti civique démocrate ODS a un nouveau président. C'est le maire de Prague, Bohuslav Svoboda, qui a remplacé le président sortant de la section, Boris Štiastný. Le nouveau chef se propose de consolider la section et de lui rendre la confiance perdue des électeurs. On écoute Václav Richter.
La victoire de Bohuslav Svoboda n'a pas été une surprise. Dès avant l'élection, il avait totalisé 12 des 15 nominations, tandis que son rival Jiří Janeček, ancien membre du conseil municipal, n'en avait obtenu qu'une seule. Bohuslav Svoboda a finalement été élu par 68 des 95 délégués présents, Jiří Janeček n'ayant obtenu que 10 voix. La victoire du nouveau chef est d'autant plus éclatante qu'il a réussi à imposer ses candidats au poste des vice-présidents de la section, y compris celui de premier vice-président, qui sera occupé par le vice-ministre des Finances, Zdeněk Zajíček. Cette position confortable devrait permettre à Bohuslav Svoboda de réaliser un programme ambitieux et notamment de réhabiliter aux yeux de l'opinion la section pragoise de l'ODS, ravagée par des conflits intérieurs et éclaboussée par des affaires de corruption. Bohuslav Svoboda a précisé ses intentions.
De manière générale, l'évolution à venir de l'ODS repose sur deux niveaux de communication. Il s'agit de communiquer avec les autres sections de l'ODS et avec nos électeurs pragois. Je souhaite que l'ODS gagne les élections de telle façon qu'elle puisse décider de l'évolution de Prague aussi à l'avenir.
Le nouveau président estime que l'ODS doit reprendre sa position dominante dans la capitale. Il souligne cependant que ce ne sera pas possible si le parti poursuit sa politique actuelle, politique qui finira, d'après lui, par réduire l'ODS à l'insignifiance. Il désire s'engager pleinement dans ce processus malgré les risques que cela comporte.
Ma situation sera maintenant beaucoup plus difficile parce que j'ai pris cette responsabilité. Tous les échecs qui surviendront me tomberont dessus. J'en suis conscient, tout comme j'étais conscient en novembre dernier lorsqu'on décidait de l'évolution future de la coalition municipale à Prague, que je serais considéré comme responsable d'un éventuel échec. Cependant, quelqu'un devait le faire.
Déjà en novembre dernier, Bohuslav Svoboda a réussi avec une habileté inattendue à mettre fin à la coalition entre l'ODS et le Parti social-démocrate à la mairie de Prague et a créé une nouvelle coalition avec le parti Top 09. Il est donc évident que ce gynécologue de profession ne manque pas de talent pour la politique. La façon dont il s'est fait élire à la présidence de la section pragoise de l'ODS est une nouvelle preuve de ce talent. Le député Marek Benda, un des nouveaux vice-présidents de la section, constate.
C'est la victoire de Monsieur le maire, une victoire complète. Il a gagné au vu du nombre de voix qu'il a obtenues, mais aussi en ce qui concerne les membres de sa nouvelle équipe qui ont été élus comme il le souhaitait.
L'avenir montrera si Bohuslav Svoboda saura utiliser ses capacités indiscutables pour améliorer la réputation de l'ODS dans la capitale et notamment pour démanteler les structures clientélistes au sein des organes municipaux. Ce n'est que de cette façon qu'il pourra rendre la confiance des électeurs à son parti.
Le siège de Galileo sera à Prague. L'accord final a été conclu il y a quelques jours dans le cadre d'une conférence sur le système européen de navigation par satellite organisée dans la capitale tchèque. À cette occasion, pour parler plus en détail de ce qu'est Galileo, nous sommes avec Paul Flamand, l'un des responsables à la Commission européenne de ce projet ambitieux qui doit venir concurrencer le GPS américain. Il est au micro d'Alexis Rosenzweig.
Panorama.
Panorama.
Paul Flamand, bonjour. Quel est l'enjeu de cette conférence Galileo organisée à Prague ?
Je pense que le focus principal de cette conférence est orienté sur les applications de la navigation par satellite. Mais la raison pour laquelle cette conférence se déroule ici aujourd'hui, c'est que l'agence qui va gérer les programmes Galileo et EGNOS dans le futur s'installe à Prague en 2012.
Alors EGNOS, pour ceux qui ne sont pas très au courant de tous ces dossiers, ça veut dire quoi ?
Donc aujourd'hui, il existe un système mondial de radionavigation par satellite qui est le GPS américain. Tout le monde le connaît parce que ça permet de conduire les voitures aujourd'hui, entre autres. L'Europe, depuis maintenant une dizaine d'années, a développé un système pour améliorer les performances de ce GPS au-dessus des territoires européens. Donc EGNOS, c'est un système qui améliore les performances en termes de précision de localisation des équipements, des voitures, des trains, des avions, des bateaux. et qui permet également d'assurer ce qu'on appelle l'intégrité des signaux GPS. Aujourd'hui, quand un avion atterrit sur un aéroport, il a besoin de savoir si les informations qu'il reçoit du GPS sont 100% fiables. Ce que fait le système EGNOS, c'est de rajouter justement cette information sur la fiabilité de ce qui arrive du GPS. Comme ça, un avion qui atterrit peut savoir si les satellites GPS qu'il a au-dessus de lui sont réellement en fonction et qu'ils fonctionnent correctement. Et donc, ça lui permet de savoir si l'information de localisation dont il dispose est correcte. Parce que pour un avion, il est très important de savoir si la précision est correcte à 4 ou 5 mètres près, parce que ça permet d'atterrir sur la piste ou à côté de la piste. Et EGNOS lui donne cette information de fiabilité.
On en est où pour Galileo ? On a une date pour l'instant fixée à 2014. Est-ce que les délais seront tenus ?
Alors les délais sur Galileo sont assez compliqués parce qu'en réalité l'Europe met en place une machine qui est nouvelle, qui est complexe et pour laquelle l'Union européenne et les industries de l'Union européenne ont dû apprendre. Aujourd'hui, effectivement, sur le papier, l'ensemble des conditions sont là pour que fin 2014, nous ayons déjà des services qui puissent être mis à disposition des utilisateurs. Alors on parle de services. Derrière la fourniture de services, il y a une architecture avec une infrastructure avec des stations au sol et des satellites en orbite. Donc on va graduellement, dès que l'on met des satellites en orbite, on commence à pouvoir fournir des services, parce que ces services, on les conçoit en interopérabilité avec le GPS américain. Donc aujourd'hui, il y a déjà deux satellites Galileo opérationnels, à la limite, les récepteurs qui seraient équipés des chaînes de réception pour Galileo peuvent déjà utiliser ces satellites-là. Au fur et à mesure que l'on va augmenter le nombre de satellites, au fur et à mesure que les précisions vont devenir meilleures et les utilisateurs pourront réellement tabler sur les satellites Galileo.
Vous parlez de précision. Je crois qu'aujourd'hui, le GPS permet une précision à 20 mètres, en tout cas pour les services gratuits, et que Galileo a pour ambition d'avoir une précision à 4 mètres.
Effectivement, la précision qu'offre le GPS est entre 10 et 20 mètres. Et quand Galileo sera là, on descendra au niveau du mètre. Alors maintenant, pour les utilisateurs, je dirais lambda pour tout le monde, pour monsieur tout le monde, c'est vrai qu'on parle toujours en termes de précision. Mais après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Il y a la couverture, parce qu'à certains moments, à certains endroits, le GPS n'offre pas la couverture de 10 à 20 mètres. Il y a une question de disponibilité en termes de temps. Ce dont on parle, c'est pendant 98% du temps, effectivement, cela offre cette précision, mais pendant 1 ou 2% du temps, ça n'offre pas la précision. Donc, effectivement, le terme de précision est simple parce qu'il frappe l'esprit, mais au niveau technique, il y a d'autres paramètres à mettre en œuvre. Mais toujours est-il que lorsque, effectivement, Galileo sera là, les utilisateurs pourront disposer d'une précision de l'ordre du mètre.
Alors, c'est un détail technique, mais il y a aussi derrière ça un enjeu géostratégique, géopolitique, puisque le GPS est un monopole américain, que les Américains peuvent l'éteindre, ou en tout cas restreindre son utilisation. Notamment, ça s'est passé pendant la guerre d'Irak ou pendant le bombardement de l'ex-Yougoslavie, il me semble. C'est donc un enjeu très européen. Vous êtes bien placé à la Commission pour savoir que ça a été compliqué entre les États membres de faire passer ce projet et qu'aujourd'hui, même si c'est sur la bonne voie, ça reste quand même compliqué.
Bon, alors techniquement, le système est effectivement un peu compliqué, mais pour les utilisateurs, l'important, c'est de se dire aujourd'hui, on dispose d'un système qui est le GPS américain. Les Américains sont nos amis. Cela m'étonnerait qu'un jour ils décident de restreindre l'accès du GPS au-dessus de l'Europe. Toujours est-il qu'il y a des ingénieurs qui travaillent sur ces projets. Les ingénieurs vous diront toujours, il est bon de disposer d'un système, il est meilleur de disposer de deux systèmes, pour de simples raisons de, on appelle ça en anglais, de backup.
De solution de secours.
De solution de secours, exactement. Donc, baser des applications sur un seul et unique système qui est contrôlé par un centre de contrôle et que ce centre de contrôle pourrait avoir des problèmes, c'est dangereux. On dit aujourd'hui que 6% de l'économie, de l'activité économique dans les pays industrialisés utilise le positionnement et le temps fourni par le système GPS. Donc ça veut dire que 6% de nos économies sont dépendantes d'un système que l'on ne contrôle pas du tout, qui est ce GPS américain. Donc pour de simples raisons de sagesse, il est bon qu'il y ait au moins un deuxième système qui puisse prendre le relais si jamais le premier système devait avoir des problèmes. Donc ça, c'est une très bonne raison. Et deuxième raison, c'est pour les industries européennes, il est bon également d'apprendre et d'avoir la maîtrise des techniques de navigation par satellite. Parce que jusqu'il y a une dizaine d'années, les seules sociétés qui fabriquaient des récepteurs de navigation et qui concevaient des applications basées sur la navigation par satellite, c'était des industries américaines. Depuis que le projet Galileo a été mis en place, eh bien, les industriels européens commencent à avoir le know-how, les compétences, le savoir-faire pour eux aussi développer des récepteurs et développer des applications. Et c'est là que se trouve le réel enjeu, c'est dans les applications, pas dans la mise en place d'un système lui-même, c'est dans les applications. Et Galileo a permis aux industriels européens d'acquérir les connaissances nécessaires pour les applications.
Ça n'empêche pas que la conférence qui est organisée à Prague était sponsorisée, où le principal partenaire était Honeywell.
Oui, ça c'est intéressant. Effectivement, donc les autorités tchèques ou les autorités de Prague ont visiblement des partenariats avec cette société Honeywell. Personnellement, j'ai parlé avec le représentant Honeywell ici qui me disait Honeywell, il ne faut pas la voir comme une société américaine. C'est une société internationale, comme peut l'être Siemens, par exemple, qui est aussi une société internationale, qui a aussi des activités aux États-Unis. Et ils ont des compétences. Ces compétences-là peuvent être utilisées dans les systèmes de navigation, d'où la présence de Honeywell ici à cette conférence. Et il semblerait qu'ils ont des centres de recherche importants ici à Prague, raison pour laquelle ils sont présents et pour laquelle ils ont décidé de mettre de l'argent dans la conférence.
Qu'est-ce que sera ce centre pragois de Galileo ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu de ce qu'il va y avoir ici dans la capitale tchèque ?
D'accord. Donc alors aujourd'hui, le projet de la navigation par satellite est géré par la Commission européenne à Bruxelles. Et nous utilisons l'Agence spatiale européenne comme expert technique, comme architecte technique, si vous voulez. La Commission européenne, d'une certaine manière, n'a pas vocation à gérer des programmes technologiques comme Galileo. Il se fait que pour des raisons historiques, aujourd'hui la gestion se fait depuis Bruxelles par la Commission européenne, mais l'idée est donc d'externaliser la gestion du programme vers cette agence qu'on appelle la GSA, ici à Prague. Donc toutes les activités de gestion du programme vont être transférées à Prague. Ne restera à Bruxelles plus que les aspects de propriété, parce que l'Union européenne reste propriétaire du système. Il y a aussi une responsabilité vis-à-vis du Parlement européen, du Conseil européen. Bon, la Commission va continuer à jouer ce rôle-là. Et puis il y a aussi des activités de relations internationales qui resteront à Bruxelles. Mais tout le reste, c'est-à-dire les choix sur combien de satellites il faut mettre en place, quel sera l'exploitant technique du système, comment est-ce qu'on va créer les interfaces nécessaires avec les utilisateurs, eh bien tout ça sera géré depuis le centre GSA à Prague.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci à Alexis Rosenzweig pour ce reportage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet www.radio.cz/fr. Au revoir.